Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
C'est des noms d'oiseaux. Des fois, ça va jusqu'à des menaces de mort. À titre collectif, tout le monde nous applaudit et le patient en individu a peut-être un autre comportement.
Chaque jour, chaque heure, ils sauvent des vies. Pourtant, les soignants sont régulièrement insultés, voire agressés, vols de matériel et même du précieux caducé sur leur voiture.
Emmanuel Macron au chevet du Grand Est, le président visitait tout à l'heure l'hôpital militaire de campagne installé pour soulager les hôpitaux de la région. Il portait un masque.
2000 milliards de dollars. Les États-Unis s'apprêtent à adopter un plan historique pour relancer la première économie mondiale, elle aussi très touchée par la pandémie. Puis dans ce journal, on entendra également les précisions du président du Comité international olympique après l'annonce du report des JO de Tokyo, report qui bouleverse bien sûr le monde du sport et qui tourne au casse-tête.
Anissa, le ciel, du gris dans le sud.
Oui, effectivement, et plus que du gris, puisque demain, nous aurons même de la neige sur l'Aveyron, le Cantal, le Languedoc et les Pyrénées-Orientales, de la neige à basse altitude. Dans le nord, il fait toujours aussi beau. Je vous donne tous les détails pour cette journée de jeudi bien fraîche à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et on en parlait
tout à l'heure sur Europe 1 avec mon invité, le professeur Lantieri. Emmanuel Macron est à Mulhouse. Le président a visité tout à l'heure le premier hôpital militaire de campagne installé pour soulager les hôpitaux du Grand Est.
Et bonsoir Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Bonsoir, Jean-Rémy, bonsoir à tous.
Jean-Rémy, le chef de l'État au cœur donc de l'épidémie.
Oui, l'image que tout le monde retiendra, c'est celle d'Emmanuel Macron qui arrive sur le site de l'hôpital de campagne de Mulhouse et place un masque sur son visage. Le président de la République au contact du personnel médical uniquement. 10 personnes sont soignées ici depuis hier. Sur place, Emmanuel Macron en soutien, mais face aussi à la réalité de l'épidémie. Sous une tente militaire, une grande table, des chaises espacées, des professionnels de santé qui appellent à l'aide. La situation est inédite, c'est du jamais vu, le système est submergé, c'est très inquiétant, rapporte un urgentiste de Mulhouse. Le flux des malades ayant besoin de réanimation et sans fin, on pourrait remplir une réa classique tous les jours en chaîne une autre. Voilà donc au-delà des images, au-delà de la communication élyséenne, ce à quoi se confronte Emmanuel Macron. Le président qui prendra la parole après 20h, il annoncera 29 000 tests par jour pour les soignants et les EHPAD et un numéro de téléphone de soutien psychologique pour les soignants et leurs familles.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 en direct. L'appel à l'aide aujourd'hui de Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris et d'Île-de-France, réclame la réquisition de personnel soignant et une reconnaissance, peut-être même sous forme de prime, dit-il, pour l'effort surhumain de ces personnels. Il insiste également sur l'importance du moral des soignants, capital bien sûr pour tenir. Le directeur général de la santé d'ailleurs confirme cette urgence. Jérôme Salomon appelle tout le personnel médical et paramédical, professionnels ou étudiants, à venir en renfort.
Et des soignants qui, on le découvre avec stupeur, sont de plus en plus souvent, oui c'est bien réel, la cible d'agression, Jeanne Bergaoui.
Oui, il y a d'abord ces petits mots anonymes déposés sur des pare-brises ou dans des boîtes aux lettres. Pas des mots d'amour, mais des messages agressifs demandant aux soignants de déménager ou bien de garer leur voiture loin des autres parce qu'ils sont potentiellement porteurs du virus. Des infirmières, des médecins victimes également de vandalisation. Ce sont cette fois leurs voitures qui sont ciblées, identifiées par un signe distinctif, le caducé apposé sur le pare-brise. Pour la première fois en 32 ans de carrière, Ghislaine, infirmière libérale, vient d'enlever ce macaron.
Ils pensent que c'est un laissez-passer pour aller n'importe où. Donc ils cassent la vitre de la voiture, ils prennent le caducé. Ou des masques. Alors on en a très peu et vous le savez tous, on crie assez fort. Pareil pour la solution hydroalcoolique. Donc il faut tout ranger dans notre coffre de voiture. On ne peut pas faire autrement parce qu'on a besoin de notre véhicule pour travailler.
Et puis il y a aussi les agressions verbales et physiques pour ces soignants en première ligne, par exemple dans les officines. Avec la pénurie de masques, de gants ou de thermomètres, certains patients angoissent et le ton monte parfois rapidement, explique Alain Marcillac. C'est le référent sécurité du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
C'est des noms d'oiseaux. Des fois, ça va jusqu'à des menaces de mort. C'est très, très traumatisant. À titre collectif, tout le monde nous applaudit et le patient en individu a peut-être un autre comportement. C'est un appel au civisme. Il faut qu'aujourd'hui, les patients aient de la retenue auprès des soignants.
Un appel au civisme pour stopper cette montée des agressions. Un exemple, les pharmaciens victimes d'incidents peuvent se déclarer en ligne auprès des membres de l'Ordre national. En une semaine, les signalements ont déjà été multipliés par 3.
Merci Jeanne Bergaoui. Et tout ça est assez stupéfiant. Cet après-midi, Édouard Philippe a annoncé devant le Sénat qu'un pont aérien allait être mis en place entre la France et la Chine pour faire venir, a-t-il dit, des millions de masques de protection. Notre pays est désormais juridiquement armé pour organiser l'état d'urgence sanitaire. C'est ce qu'a dit le Premier ministre à l'issue du Conseil des ministres aujourd'hui. Priorité de ce régime d'urgence, soutenir les soignants, bien sûr, en première ligne. Et en deuxième lieu, éviter les ravages économiques que peut entraîner le confinement et le ralentissement, bien sûr, de l'activité.
Alors justement, le gouvernement passe à la vitesse supérieure pour aider les entreprises. Pas moins de 25 ordonnances prises en Conseil des ministres et elles s'appliqueront dès après-demain, vendredi.
Oui, 1 milliard d'euros d'aide pour les petites entreprises en difficulté, chômage partiel facilité, possibilité d'augmenter le temps de travail des salariés jusqu'à 60 heures par semaine dans certains secteurs clés. Les demandeurs d'emploi ne sont pas oubliés, droit au chômage prolongé pour ceux qui devaient expirer dans le courant de ce mois de mars, le temps d'état d'urgence. Quant aux plus vulnérables, le gouvernement souhaite aussi les protéger. La trêve hivernale, par exemple, est prolongée jusqu'au 31 mai et la prolongation des minima sociaux va se faire sans condition.
Et dès 19h30, vous posez toutes vos questions, emploi, chômage, immobilier, impôts, qu'est-ce que ce confinement va changer? Nos experts vous répondent de manière très claire et pédagogique. C'est jusqu'à 20h au 3921 et hashtag radio ouverte.
Et puis on signale, Nathalie, que quelques 40 000 candidats se sont manifestés 24 heures seulement après l'appel national, vous savez, qui a été lancé pour compenser le manque de travailleurs saisonniers dans l'agriculture. C'est ce qu'indique en tout cas la FNSEA, nos confrères de l'agence France Presse. Le ministre de l'Agriculture avait lancé cet appel à l'armée de l'ombre des hommes et des femmes qui n'ont plus d'activité, les invitant à rejoindre cette grande armée de l'agriculture française qui est en quête de main-d'œuvre pour les récoltes de fruits et légumes ou les semis de printemps. L'actualité, c'est aussi l'Espagne qui dépasse désormais la Chine en nombre de morts. Plus de 3400 Espagnols ont déjà succombé. Et puis aux États-Unis, le Sénat américain doit approuver tout à l'heure un plan historique de relance de la première économie mondiale qui est elle aussi durement frappé par cette pandémie. Bonsoir Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Xavier, oui bonsoir, on parle de 2000 milliards de dollars. Ah, visiblement on a perdu la liaison avec Xavier Yvon, ça n'est pas très grave, on va le retrouver dans un petit instant. 2000 milliards de dollars donc pour relancer la première économie mondiale, les États-Unis. Et dans ce contexte, les accusations ce soir du G7 qui regroupe les pays les plus industrialisés, notamment la France. Ils dénoncent une campagne intentionnelle de désinformation de la Chine au sujet du coronavirus. Le Parti communiste chinois représente une menace importante pour notre santé et pour notre mode de vie. Comme l'épidémie l'a clairement démontré, c'est ce que déclare ce soir le chef de la diplomatie américaine.
Alors, est-ce qu'on va retrouver Xavier Yvon aux États-Unis? Non, alors pas tout de suite. En tout cas, vous avez entendu, hein, c'est ce que nous disait d'ailleurs Emmanuel Dutheil, ce plan de 2000 milliards de dollars. Bonsoir Xavier Yvon, correspondant Europe 1 aux États-Unis. Quand on fait les choses chez vous en Amérique, c'est peut-être tardivement, mais pas à moitié, hein.
Ah oui, c'est un chiffre vertigineux. 2000 milliards de dollars, c'est un alignement de 15-0 du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. C'est plus de deux fois plus que le plan de sauvetage lors de la crise de 2008. C'est un investissement digne d'un temps de guerre, a dit le patron des sénateurs démocrates. Alors la mesure la plus concrète, c'est que chaque Américain recevra dans sa boîte aux lettres un chèque du gouvernement de 1200 dollars sous condition de ressources, donc 2400 pour un couple, plus 500 dollars par enfant. Ça, c'est pour répondre à l'urgence que vivent de plus en plus d'Américains à mesure que l'économie est à l'arrêt. Ils perdent leur emploi. Or, la majorité d'entre eux n'a pas d'épargne. Et la moitié de la population vit quasiment au jour le jour. Pour faire face au chômage de masse qui se profile, le plan prévoit aussi d'étendre les droits au chômage, très limités aux États-Unis. Il y a aussi des programmes de prêts gargantuesques pour les PME et les industries, et également une méga enveloppe de 280 milliards de dollars pour les hôpitaux et les services d'urgence. Alors normalement, le vote doit avoir lieu aujourd'hui au Sénat, demain à la Chambre. L'effondrement de l'économie, c'est, vous savez, la frayeur de beaucoup d'Américains, dont Donald Trump, qui le répète sans arrêt depuis quelques jours. Le remède ne doit pas être pire que le mal, comprenez. On ne peut pas détruire l'économie pour lutter contre le virus.
Un peu de friture sur la ligne et un chat dans la gorge, mais on a quand même tout compris. Merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1, en direct de New York.
Et puis Isabelle, ce sont des préoccupations que nous avons tous en cette période de confinement. L'inquiétude d'avoir par exemple une fuite à la maison ou un court-circuit, alors que les magasins de bricolage sont actuellement fermés, ça peut vite tourner au cauchemar.
Et oui, effectivement, surtout si on n'a ni les professionnels, ni les outils pour réparer. Eh bien, figurez-vous que plusieurs enseignes s'adaptent. Certaines proposent des drives, un service de retrait de commandes, mais avec quand même des consignes sanitaires strictes pour dépanner donc ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce qu'a pu constater près de Lille Maximilien Carlier.
Problème de chauffe-eau, panne électrique, les travaux d'urgence, c'est parfois compliqué, surtout pendant le confinement. Marc habite à 20 minutes de Lille, impossible de réparer son robinet dans sa salle de bain.
Mon problème actuel, c'est un problème de mitigeur de lavabo qui ne coule plus. Où j'ai plus un petit filet qui s'écoule. Alors je suis bien embêté parce que pas de lavabo, donc on peut pas trop se laver, hormis dans la douche. Mais bon, c'est plutôt galère.
Pour faire les réparations, Marc va précommander son produit sur Internet et venir le récupérer directement, comme l'explique Karine. Elle est directrice Leroy Merlin à Villeneuve-d'Ascq.
Arrivée au magasin, nous l'accueillons sur le parking sous forme d'un drive, en respectant surtout des distances de sécurité. Un collaborateur vient lui déposer la palette derrière son véhicule et le client sort pour charger à partir du moment uniquement où le collaborateur est reparti. Donc il n'y a aucun contact physique avec notre client.
Et environ 6800 articles sont disponibles sur les 50 000 références que compte ce magasin. Uniquement des produits de première nécessité, plomberie, quincaillerie. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
C'est aussi une conséquence de la pandémie. Le procès aux assises des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercachère, ce procès qui devait démarrer le 4 mai est reporté à une date ultérieure non communiquée.
Et on le sait depuis hier, hein, Isabelle, les Jeux Olympiques de Tokyo sont reportés et ça n'est pas sans causer pas mal de difficultés d'un point de vue sportif évidemment, mais pas seulement.
Et oui, le président du Comité international olympique a convié la presse du monde entier aujourd'hui pour une conférence audio au lendemain de cette annonce, choc. Hein. 400 médias, vous en faisiez partie, Corinne Boulot, et vous avez suivi cette conférence avec attention. Thomas Barr a reconnu qu'il faudrait faire des compromis et des sacrifices.
Oui, parce que c'est un véritable casse-tête pour le CIO et le Japon. C'est un travail de titan qui commence pour la Task Force Olympique qui s'est constituée aussitôt le report annoncé des Jeux de Tokyo. Ce groupe de travail renforcé va devoir se pencher sur une multitude de sujets qui vont des infrastructures à maintenir, notamment le village olympique, à la gestion des sites en passant par les qualifications d'athlètes. Sans compter qu'il faut évidemment trouver une nouvelle date à ces Jeux de Tokyo 2020, au plus tard à l'été 2021. Et ça n'est pas la moindre des tâches, comme la souligné ce matin l'Allemand Thomas Barr, président du Comité international olympique.
Tout cela demande des consultations, d'abord avec les 33 fédérations internationales. Nous aurons des conférences téléphoniques pour voir avec elles quelles peuvent être les options possibles. Nous devons aussi prendre en compte le calendrier sportif autour des Jeux Olympiques.
Et oui, et comment rajouter des JO dans un calendrier déjà chargé, notamment par le report aussi de l'Euro de foot l'an prochain, des JO au printemps ou à peu près aux mêmes dates estivales, c'est bien un défi sans précédent que doit relever le CIO.
Encore pas mal de questions en effet. Merci Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1.
Et merci à vous Isabelle Millet, on vous retrouve à 19h30, vous ne vous éloignez pas trop, hein. Vous restez dans le coin, dans le salon. Du gris, du froid, de la pluie et de la neige dans le sud, rien que ça, Anissa ?
Il est pas mal le programme pour nos amis confinés sur la moitié sud, c'est vrai que c'est pas terrible. Il y a une dégradation qui arrive ce soir sur le sud de la France avec dès demain matin sur l'Occitanie, le Limousin, l'Auvergne, des averses. Au fil des heures, ces averses, elles deviendront beaucoup plus fréquentes et intenses sur le Languedoc-Roussillon. Et puis sur l'Aveyron, le Cantal et la Lozère, eh bien là, il neige dès demain matin à 400 mètres d'altitude. Autant vous dire que c'est très bas, c'est quasiment en plaine. Sur les Alpes, les Pyrénées et les Cévennes, les flocons sont attendus en quantité. On attend presque 10 cm de neige demain sur les Cévennes. Dans le sud-est et en Corse, les nuages sont très nombreux. Le Mistral vient se rajouter à tout cela. Il se lève demain dans l'après-midi pour souffler en moyenne à 50 km/h. Et partout ailleurs, sur la moitié nord, eh bien là, le ciel est dégagé. C'est un temps anticyclonique qui fait vraiment très beau. Hein. Au-dessus de la Loire, c'est vraiment un temps très printanier. Sur les côtes bretonnes et les côtes de la Manche, là, c'est le vent du nord qui souffle. Alors le Mistral, le vent du nord, plus cette dégradation sur le sud, eh bien on a des températures qui sont en chute libre, avec encore des gelées matinales demain matin. Moins 4 à Montluçon, moins 3 à Épinal, moins 2 à Guéret, Clermont-Ferrand et Belfort, 0 à Poitiers, 2 pour Paris, 3 à Marseille, Lyon et Montpellier, 5 degrés à Pau, 8 à Biarritz. Et puis au meilleur de la journée, ce sont des moyennes bien en dessous des normales de saison, 8 à 12 degrés au nord et 12 à 14 degrés sur la moitié sud. La maximale sera pour Marseille avec 14 degrés.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec vous, Nathalie Lévy, et l'interview politique dans un instant.
Oui, à bonne distance, l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Nathalie.
Votre invité ce soir,
Renaud Muselier, président LR de la région Sud et de l'Association des régions de France, les régions qui sont mobilisées dans la crise du coronavirus.
Votre interview dans une minute sur Europe 1.
Suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et à 19h15, c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont.
Oui, avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, le président de la région Sud, Renaud Muselier, à votre micro.
Bonsoir, Renaud Muselier.
Bonsoir.
25 ordonnances adoptées aujourd'hui en Conseil des ministres pour faire face à la crise sanitaire, économique, sociale. Le Premier ministre a prévenu que l'effort allait être long. Est-ce que le gouvernement fait tout ce qu'il faut dans cette crise ?
Écoutez, il a deux problèmes majeurs en face de lui. Un problème sanitaire, très important bien entendu, qui entraîne mécaniquement, avec le confinement, un arrêt de l'économie mondiale et bien sûr dans notre pays. Et face à cet arrêt de l'économie, il se dote de moyens pour préparer le rebond et la relance. Et j'espère que ça suffira. Mais en tout cas, incontestablement, nous, les régions de France, qui sommes en contact en permanence avec soit le Premier ministre, soit M. le maire, M. Darmanin, nous avons eu plusieurs réunions. Je pense que ces premières ordonnances qui sont issues aujourd'hui nous permettent, au lendemain de la loi sur l'urgence qui a été faite samedi dernier, d'aborder quand même le problème en tenant compte de la totalité du réseau économique français.
Le droit du travail notamment va être bouleversé ces prochains mois avec des dérogations pour faire travailler les salariés des secteurs vitaux jusqu'à 60 heures par semaine. Est-ce justifié ?
Vous savez, aujourd'hui, je vois par exemple dans une région comme la mienne, nous avons 98% du tissu économique qui est directement impacté. Et sur ces 98%, nous en avons 92% qui sont particulièrement impactés, c'est-à-dire que une très grande partie, c'est 100% de l'arrêt de l'économie. Donc aujourd'hui, si nous n'envisageons pas une modification à la sortie pour pouvoir se remettre au travail, il n'y a aucune possibilité de payer les dettes que l'on va mettre en place dans le cadre de ces chômages partiels, de ces arrêts d'économie pour empêcher les faillites. Il va bien falloir à un moment ou l'autre qu'on se remette à travailler et se doter d'outils temporaires qui permettront la relance.
Oui, donc contrairement aux syndicats, à la gauche et certains à droite, vous ne vous émeuvez pas plus que ça du fait qu'on ait des dérogations au droit du travail en ce moment.
On se rend bien compte qu'on est dans un système d'urgence. On se rend bien compte que la médecine bouge. On se rend bien compte que pour la première fois dans notre société, plus personne ne peut sortir et que celui qui sort est quelque part un porteur viral en puissance et nous condamne à rester encore plus confinés. Donc on a une situation bien particulière et je crois que tout le monde doit réaliser l'enjeu aujourd'hui de santé publique qui est le nôtre. Et une fois que cette mauvaise passe sera passée, est-ce que ça sera 2 mois, est-ce que ça sera plus, et il y aura la nécessité de relancer cette économie et la vie repartira de toute façon différemment. Parce qu'il faudra recentraliser, ramener dans notre pays une production qui est partie. Il y aura incontestablement des choix stratégiques à faire et qui sont très différents de ce que l'on a fait dans ces dernières années.
Renaud Muselier, vous êtes président de la région Sud, l'ex-PACA. Vous êtes aussi président de l'Association des régions de France. Les régions qui sont très mobilisées, elles organisent des transports gratuits pour les soignants. Elles commandent des masques. Combien de masques les régions ont commandé? Et quand la distribution pourra-t-elle effectivement débuter sur le terrain?
Bien, écoutez, effectivement, vous avez deux volets sur lesquels nous sommes très, très en pointe. Dans notre cadre de compétences, nous sommes porteurs de la compétence économique sur notre propre territoire. Et donc, nous avons participé participer à la rédaction d'un certain nombre de décrets, notamment nous allons instruire les dossiers sur les fonds de soutien, fonds de solidarité auprès des petites entreprises, les 1500 euros qui vont arriver à la fin du mois pour tout le monde, et au-delà de ça, les 2000 ou 2500 euros pour les autres entreprises. Ce sont des régions françaises, chacune qui est compétente pour arriver à traiter ça de façon rapide et efficace. Parallèlement à ça, on a bien sûr la crise sanitaire, nous sommes en boucle et nous travaillons tous ensemble. Et nous sommes alertés depuis le début par notre ami Jean Rottner, qui est médecin urgentiste comme moi.
Président de la région Grand Est.
Aujourd'hui, président de la région Grand Est, et qui nous a alertés depuis déjà un moment sur ce qui allait se passer chez nous au fil du temps dans la vague qui arrive. Et donc, nous avons très tôt demandé au gouvernement d'avoir la possibilité, dans le cadre de cette loi, de pouvoir faire des commandes, ce qui n'était pas possible avant, à l'international. Et donc, nous avons commandé, cette région a commandé près de 40 millions de masques.
Ces marchés ils seront distribués à partir de quand ?
Ces marchés ont été faits à partir de dimanche, des parties en paiement aujourd'hui dans les comptabilités trésorière générale, qui font en sorte que les mandats ont été lancés, et donc maintenant, il faut que ça, les avions cargo qui arrivent. Donc ces masques, pour ceux qui ont été commandés en Chine, ce qui est l'essentiel de notre fourniture, partira dimanche, et sera opérationnel, j'espère, mardi.
On sait que le risque, c'est que les capacités hospitalières arrivent à saturation. Dans le Grand Est, on le disait, c'est déjà le cas. En Île-de-France, ça devient très compliqué aussi. Qu'en est-il de la région Sud ?
Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Sud, nous avons 140 000 lits d'hospitalisation. Nous avons débloqué 1200 lits de réanimation. Nous avons mis en place un dispositif qui fait en sorte que du numéro au centre 15, au SAMU, en passant par les urgences, les réanimations, les services comme IHU de soins de traitement ou en aval, la fluidité est mise en place, ces 1200 lits sont opérationnels, 30% des lits sont fournis par l'hospitalisation privée, que ce soit en réanimation ou en soins de suite, de façon à ce que dans le cadre du plan blanc mis en place par l'ARS, dès qu'il y a un patient qui est soigné, il laissera la place et il évoluera pour l'urgence qui arrive derrière.
Renaud Muselier, vous avez la double casquette d'élu et de médecin et vous faites partie de ceux qui soutiennent les essais du professeur Raoult de Marseille. Essais, on le rappelle, à base de la chloroquine pour soigner le coronavirus. Vous soutenez sans réserve ce traitement malgré les alertes de certains cardiologues sur le risque de troubles cardiaques.
Quand on parle du trouble cardiaque, ce sont des effets secondaires. Ça me permet de rappeler que si nous avons fait des études de médecine, c'est que nous avons la capacité de prescrire. De prescrire des soins, et nous devons prescrire des soins en tenant compte de la pathologie qui est en face de nous. Et s'il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque, eh ben on ne lui prescrira pas ce médicament. Mais ce n'est jamais qu'un effet secondaire sur une population peu importante compte tenu de la pandémie que nous vivons. Donc le problème, il est très simple. Quels sont les avantages et les inconvénients ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre piste de soins que ce qui est proposé par le professeur Raoult. Le monde entier travaille dessus. Les propositions thérapeutiques qui ont été proposées au niveau mondial ont évolué et ont évolué au fil du temps. Le professeur Raoult a fait des examens et des essais thérapeutiques ici. Il montre une chose qui est assez évidente, c'est que la charge virale pour les patients qui sont infectés du Covid, du coronavirus, d'une charge virale, ils passent de 20 jours en porteur de charge virale à 3,3 jours pour 75% de la pathologie des malades traités. Donc à partir de ce moment-là, le professeur Raoult, en son temps, a fabriqué ici à Marseille un centre mondial, lui-même étant une star mondiale, puisqu'il est considéré comme les trois premiers mondiaux dans la matière. Et nous avons ici à Marseille un IHU qui fait en sorte qu'on peut dépister, soigner, traiter, hospitaliser et faire de la recherche au sein des hôpitaux de Marseille, à côté de la faculté. Donc on peut peut-être tenir compte de ses propos. Pour ma part, je lui fais totalement confiance, sous réserve bien sûr des évolutions thérapeutiques que la communauté scientifique amènera.
Eh bien, merci beaucoup Renaud Muselier d'avoir été mon invité à distance ce soir.
Merci à vous. Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h. Nathalie Lévy avec au programme.
Alors restez avec nous dans un instant, demain en France et dans le monde. Et puis dès 19h30, droit du travail, droit de la famille, crédit, impôts. Qu'est-ce qu'il vous est permis de faire en ce moment ? Nos experts répondent à toutes vos questions jusqu'à 20h.
9h25 sur Europe 1, c'est la suite de votre grand journal du soir avec vous, Nathalie Lévy. Et on prend un temps d'avance, comme tous les soirs, avant 19h30.
Oui, on file en France, dans une région, avec vous, Jean-Pierre Montanet. Bonsoir, Jean-Pierre.
Bonsoir, Nathalie.
Alors, le nouveau comité analyse, recherche et expertise mis en place par Emmanuel Macron va le plancher notamment sur un système pour repérer les porteurs du virus grâce à nos portables. Je donne juste les chiffres, si vous le voulez bien, ce soir, parce que Jérôme Salomon vient de les livrer. Ce soir, on est à 25 233 cas positifs, dont 2227 en réanimation et 1331 décès. Des chiffres qui font froid dans le dos. Alors, repérer les porteurs du virus grâce à nos portables, cela veut dire que demain, nous pourrions tous être suivi à la trace ?
Oui, ce système, connu sous le mot anglais de backtracking, permet, grâce à la géolocalisation, de repérer des individus, en l'occurrence dans le cas d'une pandémie, des porteurs du virus via le GPS de leur smartphone. Un tel système a permis notamment à Singapour, à Taïwan et aussi à la Corée du Sud d'opérer des confinements sélectifs et de juguler l'épidémie en un temps record.
D'ailleurs, en Corée du Sud, c'est une traque pour le moins sophistiquée qu'ils ont proposée.
Exactement, vous pouvez le dire, chaque personne dépistée est vraiment suivie à la trace en temps réel et les autorités ont même reconstitué les déplacements des malades avant qu'ils ne soient testés positifs. Pas seulement par le GPS, mais aussi par les caméras de surveillance dans la rue, par les retraits bancaires aux distributeurs. Histoire d'identifier systématiquement, au plus vite, les personnes qui ont pu être en contact avec ces porteurs. Un haut responsable italien de la santé publique vient d'ériger le modèle sud-coréen en exemple à suivre dans cette bataille.
Ouais, sauf que évidemment, ça va soulever la question des libertés, des questions morales.
Exactement, en Corée du Sud, une démocratie, pourtant ça a été très bien accepté. Il faut dire que les récalcitrants s'exposaient à une peine de 2 ans de prison. Quid au pays des Lumières, est-on prêt, nous, à tailler dans les sacro-saintes libertés individuelles pour éradiquer un virus ? Est-ce Big Brother contre le Covid-19, comme certains le dénoncent déjà ? D'autres voix estiment qu'il ne faut pas se priver d'un arsenal qui a fait ses preuves, d'autant que la France prendrait des précautions sous l'égide de la CNIL, le gendarme de nos données. Au ministère de la Santé, on m'a indiqué que ce sujet est bien sur la table, mais que rien ne dit que ça débouchera sur quelque chose de concret. Il semblerait que personnellement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne soit pas très emballé par cette méthode. Question d'éthique, sans doute.
Ah, bah voilà, évidemment, l'éthique aussi dans ces cas-là. Ça s'impose de réfléchir quand même à deux fois. Merci beaucoup, Jean-Pierre Montanet. Demain dans le monde, c'est également chaque soir votre rendez-vous avec Didier François. Bonsoir, Didier.
Bonsoir, Nathalie.
On continue bien sûr à suivre la pandémie du Covid-19, à observer les réponses apportées à l'étranger, ce qui nous conduit tout droit ce soir au Brésil, où le président Jair Bolsonaro refuse d'imposer des mesures de confinement à son pays.
Effectivement, la décision a été annoncée aujourd'hui depuis le palais du Planalto par un président entouré de 8 ministres et portant un masque chirurgical. Donc les frontières du Brésil sont bien fermées. En revanche, ses habitants ne seront pas confinés. Jair Bolsonaro ne veut pas entendre parler de cette mesure qu'il a qualifiée d'hystérique, s'en prenant violemment aux gouverneurs des États qui ont imposé des limitations de déplacement pour protéger les populations, comme ceux de Sao Paulo ou de Rio de Janeiro. Ces mesures, pour le président brésilien, s'apparenteraient à une politique de la terre brûlée. Ce sont ces termes, parce qu'elle risquerait de ruiner le pays. Alors ça peut s'entendre, car si l'économie brésilienne est la première de l'Amérique latine, elle reste extrêmement fragile, avec un taux de chômage de 12%, mais surtout avec plus de 40% de travailleurs journaliers ou précaires dans le secteur informel.
Ouais, sauf que ce ne sont pas les seuls arguments.
Non, et c'est bien ça qui inquiète les Brésiliens. Depuis l'apparition de la maladie, Jair Bolsonaro est clairement très sceptique sur sa dangerosité. Dans plusieurs interviews, il a expliqué qu'il a été inutile de fermer les écoles parce que le principal groupe à risque, ce sont les personnes âgées. Ce qui n'a en soi aucun sens, car les enfants sont des transmetteurs de virus. Et puis, sa profonde conviction, exprimée à plusieurs reprises, c'est que le Brésil serait protégé de la pandémie grâce à son climat tropical et à la jeunesse de sa population.
Eh oui, mais alors, sauf qu'il fait bondir l'opposition. On rappelle que c'est le président d'extrême droite.
Oui, alors les élus de gauche l'accusent de crime de responsabilité pour ignorer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé. Et des concerts de casseroles sont organisés tous les soirs pour réclamer soit des mesures sanitaires, soit sa démission. Mais la charge la plus violente, eh bien, elle vient de sa propre majorité, puisqu'une députée d'extrême droite, membre de sa coalition, a déposé hier à l'Assemblée nationale une procédure de destitution.
Ouais, alors le président d'extrême droite qui minimise les risques, vous l'avez dit, mais qui se présente quand même lors de son point presse avec un masque. Allez comprendre. Merci beaucoup Didier François.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
À 20h, c'est devenu un rituel maintenant. On vivra ensemble sur l'antenne vos applaudissements, nos applaudissements. Et juste avant, nos experts vont répondre à toutes vos questions. Impôts, travail, famille, dites-nous, interrogez-nous sur tout ce que vous voulez. On va tenter d'y répondre évidemment avec eux. Dans cette période de confinement, que peut-on faire? 3921 pour vos questions et le hashtag Radio Ouverte.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Avec vous, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et 1331 morts. Nouveau bilan en France, c'est 231 de plus qu'hier. L'épidémie est toujours en aggravation rapide, dit ce soir le directeur général de la Santé. 86% des personnes décédées ont plus de 70 ans. Emmanuel Macron à Mulhouse, cet après-midi, le président a visité l'hôpital de campagne installé par l'armée. C'est une hérésie, c'est contre-productif. Le leader de Force ouvrière déplore la dérogation de la durée de travail dans certains secteurs jusqu'à 60 heures. On risque d'ajouter au risque d'épidémie un risque d'épuisement, dit-il. Il s'agit en effet de l'une des mesures annoncées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le droit du travail est provisoirement aménagé. Quelques 40 000 candidats se sont manifestés ce matin, 24 heures seulement après l'appel national lancé pour compenser le manque de travailleurs saisonniers dans l'agriculture. Et puis soulagement pour ceux qui aiment les jeux de loterie et autres paris sportifs. La Française des Jeux annonce ce soir que les gagnants pourront se faire payer leurs gains à l'issue de la période de confinement.
Ah bah ouais. Ah, écoutez, il faut bien des petits...
Mais ça est contente.
Des petits rayons de soleil, bah oui quand même. Écoutez, merci Isabelle Millet. À demain.
À demain.
Même heure, même endroit, dans votre bureau, salon. Dans votre salon, dans votre cuisine. Bon, voilà. Allez, à demain, Isabelle. Anissa, une belle journée au nord demain.
Oui, effectivement, c'est au nord que demain la journée sera la plus belle avec un anticyclone qui se maintient sur la moitié nord de la France depuis plusieurs jours maintenant. C'est vrai que c'est le printemps, le ciel est complètement dégagé, il est bleu azur sur de nombreuses régions avec un soleil qui brille. Alors les températures, elles seront en chute libre demain. Et puis dans le sud, en revanche, c'est une autre mayonnaise parce que nous aurons de la neige, de la pluie, du gris, du vent. Voilà pour la moitié sud, les Cévennes, le Languedoc, les Bouches-du-Rhône, le Gard, il neige. Chez vous demain dans les Pyrénées à partir de 600 mètres d'altitude. On attend 10 cm de neige dans les Cévennes, donc grande prudence dans ces secteurs. On aère bien la maison, ça va faire du bien. Et nous aurons seulement 8 degrés à Rodez, 10 à Carcassonne et Aurillac, 12 pour Paris, 13 à Strasbourg et Lyon et 14 pour Vannes et Brive-la-Gaillarde.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Ce soir, nous répondons à toutes vos questions très concrètes en matière d'emploi, d'impôts, de prêts immobiliers. Les experts sont là, ils vous écoutent, ils vous répondent. C'est simple, vous nous appelez au 39 21, 50 centimes la minute. Tous les bénéfices, je vous le rappelle, sont reversés à l'Institut Pasteur. Et vous pouvez également réagir et poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte. Alors avec vous, Nathalie, mais à distance, Roland Pérez, avocat d'Europe 1. Michael Svetch, fondateur du groupe immobilier Archange, Alice Munk-Barreau, avocate en droit de la famille, et Frédéric Calino, avocat en droit du travail.
Bonsoir à tous. Merci de répondre présent ce soir au micro d'Europe 1. Alors, le travail, c'est évidemment sans doute un des sujets essentiels là du moment pour chacun, parce qu'il y a ce chômage technique pour certains, pour les indépendants, les difficultés évidemment s'empilent et l'inquiétude avec. Alors, on va écouter Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle était ce matin sur Europe 1. Des annonces ont été très claires. 25 ordonnances, un nombre exceptionnel, une aide d'un milliard d'euros. Ces ordonnances, elles s'appliqueront vendredi. Écoutons.
D'abord, pour tous ceux demandeurs d'emploi indemnisés qui arrivaient en fin de droit et donc qui auraient perdu tout leur droit à l'assurance chômage, leurs droits à l'assurance chômage sont continuer. La deuxième chose, pour les saisonniers, il y a beaucoup de saisonniers qui ont dû arrêter plus tôt que prévu. Eh bien, par décret, nous avons décidé de considérer, pour l'assurance chômage, que tous auraient travaillé jusqu'au 15 avril. C'est pas le cas, mais ça permet les droits. Les CDD et les intérimaires sont compris dans le chômage partiel. Là aussi, il y a des mesures. Et je suspends toutes les radiations, tous les contrôles des demandeurs d'emploi pendant cette période, parce que, évidemment, on ne peut pas reprocher à quelqu'un en période de confinement de ne pas trouver un travail.
Alors on en parle pour commencer avec vous, Frédéric Canino, maître Frédéric Canino, puisque vous êtes avocat en droit du travail. Ces annonces de Muriel Pénicaud, on a entendu, on stoppe les radiations, on les suspend en tout cas. Bon, on va pas refaire toute la liste, mais on a des choses très concrètes, très très fortes qui ont été annoncées aussi et rassurantes.
Oui, bonsoir. Bah, effectivement, les premières choses qui ont été annoncées, c'est plutôt pour les demandeurs d'emploi, puisqu'on a prévu de ne pas limiter leurs droits dans le temps. Du moins, on va les prolonger. Donc, ça, c'est une chose rassurante pour cette catégorie de personnes. Ensuite, vous allez avoir des mesures qui vont être appliquées. Muriel Pénicaud parlait des travailleurs saisonniers. Ça, c'était pour s'assurer que les travailleurs saisonniers puissent avoir l'intégralité de leurs droits pour au moins toucher le chômage lorsqu'ils auraient terminé leur mission, puisqu'on se disait que s'ils terminaient trop tôt, ils ne bénéficieraient pas de l'ancienneté suffisante pour avoir les droits au chômage. Bon, là, ils l'auront. Et puis, il y a un certain nombre de mesures plus générales en droit du travail qui avaient déjà fait l'objet d'un certain nombre d'annonces, voilà, qui vont être matérialisées dans des ordonnances. On en a trois qui ont été communiquées cet après-midi. Et on en attend d'autres. Et puis surtout, on attend quand même toujours un fameux décret qui devrait réformer l'activité partielle ou le chômage partiel, peu importe comment on l'appelle.
Alors, on va prendre des questions très pratiques avec nos auditeurs. On a une première question au 3921 avec Sophia, je crois. Bonsoir Sophia.
Bonsoir.
Alors, on vous écoute, posez votre question.
Alors, étant donné que beaucoup de personnes ne peuvent travailler, est-ce que les locataires auront la possibilité de décaler le paiement de leur prochain loyer ?
Alors, oui, décalé, évidemment. On va peut-être se tourner vers Michael Svedge. Vous êtes président fondateur du groupe immobilier Archange.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre ce soir à Sophia ?
Bah, pour autant, il faut évidemment faire le distinguo entre les locaux commerciaux dans le Sempro, dont nous pouvons avoir, et les appartements résidentiels. À ce jour, évidemment qu'il faut beaucoup de compréhension pour ceux qui ne peuvent pas travailler et avoir leur salaire, mais la chose qu'on peut évidemment manifester, c'est de se manifester auprès de son propriétaire en expliquant la situation et en expliquant le fait que le loyer ne peut pas être réglé et le reporter le mois prochain. Aujourd'hui, il n'y a aucun décret sur les appartements, en tout cas, pour remettre à plus tard le paiement des loyers.
J'ai une question pour prolonger un peu la question de Sophia, alors peut-être à Maître Roland Pérez ou à vous Michael Svedge, peut-être Roland Pérez d'abord. On est propriétaire d'un local commercial qui du coup a fermé, rideau baissé parce que le magasin ne peut plus fonctionner pendant le confinement. Il s'avère qu'on est retraité par exemple et que par conséquent on vit avec ce loyer. Comment faire ?
Oui, alors c'est
Roland
tout
Pérez,
le problème, parce qu'effectivement... Oui, c'est moi. Je vais donc répondre. Bonjour.
Bonjour, Nathalie. Bonsoir à vous, Roland.
En fait, oui, le vrai problème, c'est qu'il a été prévu pour les locaux commerciaux qui sont aujourd'hui fermés, qu'ils pouvaient suspendre le paiement de leur loyer et de leurs charges qui vont avec ces loyers, eau, électricité, etc. En revanche, la situation des propriétaires reste très préoccupante, d'autant que s'ils peuvent obtenir de leur banque éventuellement des reports eux-mêmes de leur échéance de crédit, s'ils n'ont pas de crédit et que c'était un complément de retraite pour eux, ils vont se retrouver dans une situation quelque peu compliquée qui va peut-être les amener à solliciter des prêts de trésorerie à leur propre banque. Mais rien n'a été pris, aucune mesure n'a été prise pour eux, pour ces propriétaires, pour lesquels effectivement les murs qu'ils louent sont des compléments de retraite.
Et oui, des compléments de retraite qui sont parfois même au-delà du complément et ça risque effectivement d'être un problème. Peut-être qu'il faudra poser la question aux dirigeants qui viennent le matin chez Sonia Mabrouk et aux différents ministres. En tout cas, c'est effectivement un point qui n'a pas encore été évoqué. Merci Maître Pérez, on va se retrouver dans un petit instant avec vous tous d'ailleurs pour vous poser d'autres questions quand on a pris des billets d'avion, de places de spectacle là, pour les prochains jours, comment ça se passe. Et puis évidemment vous nous appelez au 3921 et hashtag Radio Ouverte, à tout de suite. Merci à vous.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous Nathalie Lévy. Et ce soir, Europe 1 répond à toutes vos questions très concrètes en matière d'emploi, d'impôts, de prêts immobiliers en ce moment. Avec cette période de confinement, vous avez certainement des questions à nous poser. Alors n'hésitez pas, ça se passe au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte. Autour de vous, à distance, Nathalie Lévy, les experts sont là. Roland Pérez, avocat d'Europe 1, Michael Svedge, fondateur du groupe immobilier Archange, Alice Munk-Barreau, avocate en droit de la famille et Frédéric Calineau, avocat en droit du travail.
Oui, on va évidemment démarrer avec la famille, parce que évidemment les temps sont durs pour les familles confinées, pour vous tous, avec vous Alice Mongbarreau, donc avocate. Quand on partage la garde de ses enfants avec son ex-conjoint, comment on fait ? Comment on fait dans cette période de confinement ?
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Alors le gouvernement l'a précisé, les parents séparés pourront se déplacer pour aller chercher et déposer leurs enfants. Il y a d'ailleurs une case spéciale dans l'attestation de déplacement dérogatoire publiée par le gouvernement. Comment ça se passe ? Il faut réfléchir en bonne intelligence pour trouver la meilleure des solutions et garder à l'esprit que ce qui doit guider les parents et l'attitude des parents, c'est l'intérêt de l'enfant. Par exemple, un parent a un véhicule de transport personnel et l'autre parent n'en a pas et il est contraint de prendre les transports en commun, le métro. Dans ces conditions, l'un des parents peut proposer à l'autre de prendre en charge le transport de l'enfant pour faire les allers-retours à la fin de la semaine si l'enfant est en résidence alternée ou lorsque l'un des parents doit venir chercher son enfant durant le week-end. D'accord. Voilà. Mais par exemple, si l'un des parents est médecin et est réquisitionné ou travaille énormément
potentiellement aussi.
Voilà, à risque. Il peut solliciter de l'autre parent qu'il prenne en charge l'enfant durant cette période, parce que c'est des circonstances exceptionnelles. Et l'autre parent l'informera régulièrement du suivi scolaire, de l'état de santé de l'enfant, mettra en place une communication régulière avec l'autre parent, médecin par exemple, très occupé, ou qui travaille dans l'agriculture ou l'industrie agroalimentaire, par exemple. Et ce sont des secteurs extrêmement mobilisés. Et l'autre parent qui ne verra pas son enfant pendant une plus longue période, se dire que cet été, chaque parent devait recevoir l'enfant, par exemple, 15 jours, peut-être que ce parent-là, qui n'aura pas vu l'enfant pendant cette période, pourra éventuellement le recevoir un peu plus longtemps. Mais toujours garder le lien et essayer de trouver de bonnes solutions. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a des tensions entre les parents durant cette période qui est très anxiogène, c'est toujours l'enfant qui est placé au milieu de ce conflit. Évidemment. Donc il faut vraiment dialoguer.
Dialoguer avant toute chose et essayer de trouver un arrangement donc, pour que ça corresponde à l'enfant bien sûr et à son bien-être. Daniel nous appelle de Cannes ce soir. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Bienvenue à vous au micro d'Europe 1, posez votre question.
Écoutez, merci beaucoup. Je téléphone au sujet d'un billet d'avion. J'avais réservé, je devais me rendre à Berlin le 19 mars et retour le 29 mars avec EasyJet. Et le 16 mars, l'Allemagne a annoncé qu'elle fermait sa frontière pour les ressortissants français. Donc, j'aurais certainement pas pu embarquer, ni si j'avais pu embarquer, je me serais retrouvé en confinement, très certainement en Allemagne. Donc, après bien des mal, j'ai réussi à avoir quelqu'un chez EasyJet qui m'a dit « Ah ben non, nos conditions générales continuent de s'appliquer, c'est-à-dire que si nous n'annulons pas le vol, vous n'êtes pas remboursé. » Donc, je lui ai dit « Mais attendez, moi j'ai pas le droit d'y aller, je ne suis pas remboursé. » Donc, et elle dit « Vous pouvez être remboursé éventuellement des taxes d'aéroport en allant sur le site. » Je leur ai envoyé, bien sûr, le formulaire. Ils m'ont même répondu avec un numéro de référence, mais j'ai toujours rien vu venir. Mais en ce qui concerne le vol,
Attendez, si vous le voulez bien, on va juste écouter Roland Pérez, si vous le voulez bien, parce que Maître Pérez va peut-être pouvoir nous éclairer et vous en dire un peu plus, et même vous en dire plus que les taxes, où effectivement la réponse est un
bien
peu pour... Alors, Maître...
Oui, alors vous avez le droit, en fait, vous avez parfaitement le droit, il ne faut pas vous laisser faire, vous avez parfaitement le droit au remboursement de votre vol, même si la compagnie n'a pas annulé d'elle-même le vol, dans la mesure où le pays qui devait vous accueillir, lui, ne peut pas vous accueillir, puisque les ressortissants français, comme européens aujourd'hui, font l'objet d'une interdiction de séjour à cause du Covid-19. Cette interdiction de séjour fait que vous ne pouviez pas monter à bord de l'avion et vous n'auriez pas été, pu évidemment être accueilli dans le pays, en l'occurrence c'était l'Allemagne. Donc,
Donc, dans ces conditions, ne vous laissez pas faire. D'ailleurs, vous allez sur UFC Que Choisir, ils vous le disent. Vous pouvez vous aider d'une association de consommateurs. Vous pouvez vous aider également du médiateur du tourisme et du voyage qui va plaider pour votre cause. Vous pouvez obtenir même des compagnies comme ça, low cost, le remboursement de ce vol. Vous n'êtes pas obligé d'accepter un report de ce vol et de vous plier aux conditions générales du vol.
Voilà, donc quand même, hein, vous pouvez vous en sortir, Daniel, ne lâchez rien, vous avez entendu Roland Pérez. On a une question, merci maître, on a une question immobilière, Anissa, sur Twitter, hein, c'est hashtag radio ouverte, allons-y.
Oui, effectivement, une question pour Michael Svedge. C'est Étienne qui nous écrit, j'ai signé un compromis de vente dont la fin arrive le 8 avril. J'ai donc donné mon préavis de ma location actuelle. Que va-t-il se passer? Je ne peux pas quitter ma location et je ne peux pas signer la vente le 8 avril.
Bon, pour le coup, c'est une bonne question. Il y a comme ça des cas tous les jours. Il faut absolument écrire aux uns et aux autres, écrire à son propriétaire en lui disant de reculer d'un mois ou de deux. Évidemment, vu la situation, il y a une solidarité qui est là. Et aujourd'hui, l'idée de se manifester auprès des uns et des autres, eh bien, il faut écrire tout à chacun en expliquant la situation. Tout le monde est dans la compréhension. Nous sommes dans la solidarité. Et pour autant, le cas d'Étienne n'est pas isolé. Donc il faut absolument écrire aux uns aux autres et puis reculer l'échéance d'un mois ou de deux, le temps que, évidemment, que cette vague passe tranquillement.
Il ne va pas perdre la vente, Étienne demande sur Twitter.
Non. Encore une fois, aujourd'hui, on est dans une situation très complexe. Donc, pour autant, il y a une chaîne économique et de solidarité qui est là. On peut pas mettre le couteau sous la gorge à Étienne pour acter les choses. Il faut absolument écrire, il faut appeler, et à partir de là, on est tous logés à la même enseigne. On est tous en train de reculer les échéances à tous les niveaux. On le voit bien, le gouvernement nous a manifesté son soutien dans toute la chaîne économique qui soit. Donc pour autant, je pense qu'Étienne et on pourra pas le. Je pense que les avocats qui sont sur la radio pourront nous valider le fait que on ne pourra pas obliger Étienne, que dans une situation que l'on vit, on l'obliger évidemment à acter les choses. Donc
merci.
C'est pas possible. À
merci
mon sens,
beaucoup. Non. Merci beaucoup. On va se retrouver, Frédéric Calino. Maître Frédéric Calino, j'ai une question à vous poser sur les gens qui sont précisément auto-entrepreneurs. Qu'en est-il pour eux? Vous allez me répondre dans un petit instant, si vous le voulez bien. Maître Roland Pérez également est avec nous, vous tous qui nous répondez ce soir et qui répondez aux questions des auditeurs. A tout de suite sur Europe 1 en direct.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Ce soir, les experts invités de Nathalie Lévy répondent à toutes vos questions. Des questions très concrètes en matière d'emploi, d'impôts, de garde d'enfants. Avec ce soir Roland Pérez, avocat d'Europe 1, avec Alice Munk-Barreau, avocate en droit de la famille, et Frédéric Calino, avocat en droit du travail.
Et Frédéric Calino, ce soir, une question vous est adressée de la part de Denis en Corrèze. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Vous êtes auto-entrepreneur, hein, c'est ça?
C'est ça, oui. Donc, dans une certaine corporation, donc en plus, en plus d'être auto-entrepreneur, je suis artiste peintre, illustrateur. Mmh. Et je donne des cours de peinture. Et donc, forcément, l'atelier a été fermé. Donc, vu que c'est pas une grande nécessité, hein, c'est pas primordial. Donc voilà, moi, ce que je voulais savoir, au nom de toutes les corporations qui sont comme moi, ce qu'il en est, justement, pour être indemnisé.
Pour les aides aux auto-entrepreneurs. C'est vrai que voilà, ça n'a pas été, si je ne fais pas erreur, Maître Calino, ça n'a pas été évoqué. Quid de cette situation-là, de ces cas-là?
Alors, ça n'a pas été évoqué. En fait, ça n'a pas été évoqué par Muriel Pénicaud. Mmh. Parce que ce n'est pas son rôle, puisque Muriel Pénicaud, elle est ministre du Travail, elle ne gère que des situations qui ont un rapport avec le droit du travail. Il faut rappeler que les auto-entrepreneurs ne sont pas des salariés. Donc nécessairement, ils ne vont pas être effectivement pris en compte ni indemnisés par les différents dispositifs dont on a pu entendre parler sur ces deux dernières semaines, et notamment sur l'activité partielle, puisque l'activité partielle ne concerne que les salariés. Donc les annonces qui ont été faites sur les auto-entrepreneurs, on a pu les avoir notamment via Bruno Le Maire ou via d'autres ministères. Et la seule annonce qui a été faite pour le moment en termes de véritable aide importante et financière, c'est cette fameuse aide forfaitaire de 1 500 € qui a été proposée par le gouvernement. Et naturellement, elle répond à un certain nombre de conditions. Donc il y a des conditions de baisse de chiffre d'affaires. Et puis, il faut quand même démontrer que son activité est absolument impactée par cette situation de coronavirus et donc d'impact sur l'activité. Là, dans votre cas, concrètement, c'est assez simple de démontrer ça. Si vous donnez des cours dans une institution et que cette institution ferme, vous arrivez au moins à remplir le premier critère qui est de dire « je ne peux plus travailler, je ne peux plus exercer mon activité en tant qu'auto-entrepreneur ». Et le deuxième critère qui sera la baisse de chiffre d'affaires, il faudra démontrer que par rapport à l'année dernière, la même période, vous avez une baisse d'au moins 70% de votre chiffre d'affaires. Et si vous avez rempli ces deux critères, eh bien, au moins vous pourrez bénéficier de cette première aide qui est ce qu'elle est, mais c'est déjà pas mal, qui est cette aide de 1 500 € de l'État.
Voilà, vous avez votre réponse. Enfin, en tout cas, j'espère, Denis, que vous y voyez plus clair. Donc, il y a évidemment des conditions, mais il y a cette possibilité d'aide forfaitaire de 1 500 €. Merci beaucoup, maître. Roland Pérez, petite question, bien sûr, pour à la fois son revenu, face à la baisse de son revenu. Peut-on revoir tout simplement son taux d'imposition ?
Oui, absolument. On peut revoir son taux d'imposition. Il suffit d'aller pour cela sur votre compte, ouvert sur impots.gouv.fr. Vous renseignez votre numéro fiscal qui est à 13 chiffres, Vous indiquez votre mot de passe. Vous accédez dans votre espace personnel. Et puis, dans le tableau de bord, vous allez avoir, il y a une rubrique qui s'appelle Gérer mon prélèvement à la source. On va sur actualiser suite à une hausse ou une baisse de revenus. Là, malheureusement, ce sera une baisse de revenus. Et alors, vous allez faire une estimation vous-même de vos revenus nets imposables et charges de l'année 2020. Vous essayez d'être au plus près avec les deux mois ou trois mois là qui vont être extrêmement durs, voire plus pour tout le monde. Et là, vous baissez, vous demandez donc une baisse de votre taux d'imposition.
Voilà, donc c'est possible, c'est faisable. Merci Maître Pérez. Je crois qu'il y a un auditeur qui voulait vous poser une question. On va retourner sur le droit de la famille dans une seconde. On est en ligne avec Claude. Bonsoir Claude de Clermont. Bonsoir Claude.
Oui.
Allez-y,
oui, bonsoir.
Je vous en prie.
Bonsoir. C'est pas une question sur la famille, c'est une question sur les entreprises.
Non, ça, ce sera juste après.
Bon, d'accord. Voilà, ma question concerne les banques, en fait, parce que nous recevons plein d'informations. Moi, je suis dans la restauration, de la part des syndicats, de la part de l'État. On reçoit les décrets, on reçoit toutes les lettres qui sont pondues par l'État depuis quelques jours. Mais voilà, en fait, mon appel, c'est plutôt un cri, pas un coup de gueule. Mais comment peut-on faire auprès des banques pour obtenir ces aides que l'État va garantir ? Parce que si, franchement, les banques ne jouent pas le jeu, on pourra mettre toutes les aides que l'État met en place, avec la BPI, avec la Fédération bancaire française, etc. Les prêts sont garantis à hauteur de 90% auprès de la BPI. Et malgré ce, c'est mon cas personnel et je sais que d'autres vont être confrontés à ce genre de problème, tout ça dépend des banques. C'est leur bon vouloir. Alors comment peut-on faire?
Alors comment
pour
peut-on
les
faire, Maître Pérez? Ouais. Maître Pérez,
ce qui a été prévu, vous avez parfaitement rappelé la situation et l'état la mise en pratique effectivement de ces éventuelles aides. En fait, il faut d'abord que vous essuyiez un refus de votre banque, justement votre banque professionnelle avec laquelle vous travaillez, votre banque d'entreprise. Vous allez lui demander donc un prêt comme vous le dites qui va être garanti à hauteur de 90%. Donc autant dire que la banque ne prend pas de risque aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui ont été négociés. Ce crédit que vous allez demander, ce crédit trésorique dont vous allez avoir besoin aujourd'hui pour faire face aux grandes difficultés de votre entreprise de restauration, n'est pas obtenu, ou si vous n'arrivez pas à obtenir de réponse, c'est à ce moment-là que vous allez vous adresser à la Banque publique d'investissement qui est régionale, c'est-à-dire que vous en avez une dans chacune des régions, la BPI France que vous avez rappelée, et cette Banque publique d'investissement, elle va se substituer à cette banque si vous n'obtenez pas de votre banque ce fameux prêt. C'est comme ça que ça doit normalement fonctionner.
Voilà, donc Claude, vous avez bien entendu Maître Pérez, donc l'information est là. Et on va conclure avec Maître Monbarreau, avocate en droit de la famille, parce que on sait bien que le confinement, ça génère aussi des situations parfois très douloureuses dans les foyers. Quand on est un couple divorcé, il y a le problème qui se pose de la pension alimentaire, Maître. Si l'un des parents est récalcitrant parce que en difficulté, hein, c'est possible aussi avec le chômage partiel, la perte de revenus, comment on fait ?
Alors, le principe sur, en ce qui concerne la pension alimentaire, c'est que la pension alimentaire est due, quelles que soient les circonstances. Bien sûr, on est dans une période exceptionnelle. Par exemple, un des parents, le parent qui doit payer la pension alimentaire, est en période de chômage partiel et ne perçoit peut-être pas l'intégralité de sa rémunération et il ne peut plus régler l'intégralité de la pension alimentaire. D'abord, il ne doit pas mettre l'autre parent devant le fait accompli. Il doit le prévenir au préalable et ne pas renoncer intégralement au paiement, mais lui dire voilà, j'ai moins de rémunération, ou par exemple un intermittent du spectacle et qui aurait moins de rémunération parce que il est rétribué en fonction de ses missions, eh bien informer l'autre parent en disant voilà, c'est une situation temporaire, l'informer au préalable, trouver une solution et diminuer peut-être, trouver un accord sur une diminution partielle et non pas total, et de proposer à l'autre parent que lorsque la situation sera redevenue normale, eh bien de rattraper ce reliquat, ce retard. Voilà, il faut toujours privilégier le dialogue. Alors effectivement, normalement, au regard du droit pénal, un parent qui ne paye pas pendant 2 mois consécutifs l'intégralité ou partiellement sa pension alimentaire, cela constitue l'infraction d'abandon de famille. On peut se précipiter au commissariat pour déposer plainte ou le citer, mais est-ce que les juges feront preuve de clémence dans, très certainement le prévoir. C'est un esprit de dialogue.
Un esprit de dialogue, bien sûr. Juste mettre une toute petite question rapide, s'il vous plaît, Maître Monbarreau, au sujet des violences familiales, parce que bien sûr ce confinement malheureusement en entraîne plus encore. Est-ce que les envois par mail des certificats médicaux seront valables pour constater les violences physiques évaluées? Est-ce que là, dans les conditions exceptionnelles que nous traversons, c'est une question qui m'a souvent été posée, est-ce que ce sera valable les envois de dossiers par email?
Oui, on peut très bien envoyer le certificat à son avocat par email. Bien sûr, il faut que les auditeurs sachent que les numéros d'urgence en cas de danger immédiat, police, secours, le SAMU, les pompiers sont toujours répondent toujours, d'accord. Et si la victime ne peut pas parler parce que elle est son conjoint la surveille, elle peut envoyer un SMS au 114. Le 112 fonctionne également et tous les numéros d'écoute et d'information sont toujours disponibles.
Merci beaucoup, Maître. Merci. C'est évidemment des sujets sur lesquels on va revenir. Écoutez ces applaudissements. C'est tous les soirs. À 20h. Partout en France, pour les soignants, pour les commerçants, pour les éboueurs, les caissières, tous ceux qui sont sur le pont chaque jour pour nous nourrir, pour nous aider, pour nous soigner. Voilà les applaudissements nourris chaque soir qu'on vous propose d'entendre. Ça fait chaud au cœur, mais ça ne suffit pas. Alors restez chez vous. Restez confinés. Merci aux avocats qui nous ont répondu ce soir et qui nous ont éclairés, qui vous ont, j'espère, éclairés. On continuera évidemment les séances de questions dans votre grand journal du soir. On vous retrouve demain, même heure, même endroit. On vous souhaite une belle soirée en dépit des circonstances. Merci de votre fidélité. Anissa,
oui, Nathalie.
À vous. Merci,
merci à vous aussi.
Merci à Christophe Pierrot qui est à la console chaque soir. Thierry Dagiral, Victor qui nous permettent de réaliser cette émission. À vous tous. Salut, à demain.
À demain. C'était Nathalie Lévy.